bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakis.
Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel pour une perspective unique sur la région. Et chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu, ce soir, élection de Donald Trump aux États-Unis. Quelle perspective pour les relations avec le Sahel et l'Alliance des États du Sahel? Les opinions sont partagées à Bamako. Le Tchad envisage un retrait de la force multinationale mixte, invoquant des défaillances de coopération et d'efficacité face aux menaces djihadistes. C'est notre fait marquant de la semaine. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré dénonce un détournement de plus de 3 milliards de francs CFA destiné aux déplacés impliquant un agent des affaires humanitaires. Forum de Nouakchott sur le pastoralisme au Sahel, bilan du projet PRAPS et défis persistants pour la mobilité, la gouvernance financière et la sécurité alimentaire. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Les États-Unis ont élu leur 47e président, Donald Trump, un scrutin suivi avec attention dans le monde entier en raison de l'influence majeure de Washington sur la scène internationale. Au Sahel, notamment dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, de nombreuses questions émergent déjà concernant les futures relations avec un président qui a déjà occupé la Maison-Blanche de 2016 à 2020. Si certains estiment qu'aucun changement notable n'est à prévoir, d'autres se montrent optimistes, espérant un renforcement des liens. Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Aux États-Unis, Donald Trump revient à la Maison-Blanche. Il prendra fonction le 20 janvier 2025. Dans les pays du Sahel, notamment au Mali, certains, comme l'analyste politique Ali Tunkara, s'attendent à un recul dans les relations avec l'Afrique, notamment le Sahel.
Le président Trump, depuis son premier quinquennat, a toujours affiché un mépris ou un désintérêt vis-à-vis du continent. De ce fait, il n'y a rien d'étonnant que ce second mandat s'inscrive dans la même ligne. Autrement dit, s'agissant de l'aide à destination de l'Afrique, en passant par des formations militaires destinées aux forces de sécurité et de défense du continent, sont des éléments qui connaîtront à coup sûr du recul sur le président Trump.
Au sein de l'opinion malienne, les avis sont partagés. Si pour les uns, il n'y aura rien de nouveau, Mohamed Lamine Touré, conseiller au CNT, l'organe législatif de la transition, abonde dans ce sens.
Je pense que rien ne va changer pour nous. Mais que nous souhaitons, il ne faut pas que le pire nous arrive, et que nous souhaitons qu'il y ait vraiment une bonne diplomatie entre les peuples africains et les pays africains et les États-Unis d'Amérique.
Le journaliste Daouda Sangari semble plutôt optimiste.
Le nouveau président américain Donald Trump va apporter l'amélioration et va renforcer la coopération bilatérale qui est entre le Mali et les États-Unis. Surtout, c'est quelqu'un qui n'aime pas mixer ou bien d'interférer dans l'affaire interne du pays. Voilà, donc c'est sur cette raison que je dirais qu'il sera quelqu'un de bien pour le Mali et il va tout faire pour améliorer la relation entre le Mali et les États-Unis.
Le Mali, le Burkina et le Niger, qui sont engagés dans une alliance militaire et économique, ne pourront pas, selon l'analyste politique Ali Tunkara, compter sur l'appui des États-Unis, car ne représentant pas d'intérêt économique aux yeux du nouveau président.
Donc Trump, comme président des États-Unis, les liens n'est pas le plus évident de l'établir avec le pays sahélien, s'agissant de l'offre, la demande de sécurité, en passant par même les relations économiques. Le continent est vu par le président Trump comme un continent orphelin, comme un continent où les États-Unis n'ont pas grand-chose à tirer comme profit de ce fait. La même attitude qu'il avait caractérisée lors de son premier quinquennat, cette même attitude est tout à fait entendue une fois que son installation venait à être effective comme second mandat.
Pour certains analystes, l'un des moyens pour les États de l'AIS de bénéficier de partenariats solides et bénéfiques avec l'administration Trump est qu'ils parviennent à représenter à ses yeux un enjeu économique de premier plan. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Et nous sommes en ligne avec Mohamed Danyoko pour continuer la discussion. Mohamed, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir.
Alors, comment les populations maliennes perçoivent-elles globalement le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis?
Oui Eric, globalement les populations maliennes, en tout cas ceux que nous avons interviewé et ceux avec lesquels nous avons discuté sont favorables à cette arrivée pour la seule raison que son arrivée pourrait, selon eux, contribuer à mettre fin au conflit dans le monde. On pense aussi que le conflit russo-ukrainien a des répercussions sur la lutte contre le terrorisme au Mali. Ils en veulent pour preuve les déclarations des responsables ukrainiens qui, au mois d'août dernier, ont affirmé avoir soutenu des groupes terroristes dans la bataille pour le contrôle de la ville de Tinzawaten. Donc oui, ici, on pense qu'un Trump qui n'utilise pas les ressources des États-Unis dans des conflits peut contribuer à mettre fin à ce conflit et par ricochet à l'affaiblissement des terroristes au Mali.
L'analyste politique Ali Tonkara mentionne une potentielle diminution de l'aide américaine. Avez-vous recueilli des témoignages de responsables locaux de la société civile sur les impacts potentiels de cette réduction pour le Sahel?
Eric, nous ne sommes pas forcément entretenus avec des acteurs de la société civile sur la question. Mais le docteur Ali Tonkara, en tant que sociologue et analyste politique, a certainement pris le temps de cette étude. Et entre 2016 et 2020, sa politique de cette période à l'endroit du Mali fonde certainement l'analyse de Ali Tonkara. Et on va dire aujourd'hui que l'arrivée de la récente DFC, la Banque de financement des États-Unis au Mali, et l'ouverture il y a une année d'une chambre de commerce américaine au Mali, et bien entendu, sont des questions qui reste en suspens et dont l'évolution va, en tout cas, attirer l'attention dans les jours à venir.
Le journaliste Daouda Sangaré semble optimiste, pensant que Trump pourrait améliorer la coopération bilatérale en raison de son manque d'ingérence. Pourriez-vous nous en dire plus sur les aspects de cette coopération bilatérale qui pourrait bénéficier d'une telle approche?
Oui, hein, en même temps que Daouda, beaucoup de ceux-là qui sont en tout cas reçoivent favorablement l'arrivée de Trump pensent que et les autorités de la transition malienne aujourd'hui, depuis leur arrivée, on le sait, ont rompu beaucoup de relations avec des partenaires et des pays. Et aujourd'hui, on sait que l'un des critères pour ces autorités-là de collaborer avec une institution ou un pays, c'est de respecter leur choix stratégique du Mali. Et pour Daouda Sankaré, le fait que Donald Trump, qui privilégie les États-Unis et les Américains, et qui ne joue pas les gendarmes du monde avec les autorités, ou a essayé d'imposer une quelconque vision, et donc dans ce sens-là, lui, il pense qu'un Donald Trump qui s'occupe que des États-Unis et ne s'immixe pas forcément dans la gestion interne des pays, et des autorités maliennes qui sont jalouses, en tout cas, de leur gouvernance et qui veulent le respecter, et réciproque, pense que ces deux personnages-là peuvent s'entendre si d'aventure il y avait des négociations entre les deux pays.
Mohamed Danyoko, notre correspondant à Bamako, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous avons quelques commentaires sur notre plateforme Facebook. Alphonse Mboaki à Kinshasa, il dit ceci: si l'Afrique se développait, les migrations vers l'Occident diminueraient et les Américains ne risqueraient plus leur vie dans des voyages, les Africains plutôt, ne risqueraient plus leur vie dans des voyages périlleux pour tenter d'entrer clandestinement aux États-Unis où l'immigration est une question centrale pour les autorités américaines, comme en témoigne la campagne de Donald Trump. Issa Diallo, il dit ceci: en fin de compte, il est clair que Trump est l'opposé de Biden. Boubacar Diampa, il dit: on aimerait qu'ils s'abstiennent d'intervenir dans les affaires internes de nos pays. Nous approfondissons la discussion avec l'analyste Ibrahima Kane du bureau ouest-africain de l'ONG Osiwa à Dakar. Monsieur Kane, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors, quels aspects de la politique étrangère de Trump pourraient influencer les relations avec les pays du Sahel par rapport à son premier mandat?
Vous avez mentionné un aspect, et déjà les premières nominations de Trump pour son équipe qui va l'aider à mener ce deuxième mandat nous donne des indications sur ce que va être la politique migratoire des États-Unis. Compte du fait que beaucoup de pays africains ont des migrants aux États-Unis, cela risque de jouer un rôle important dans leurs relations. Et je pense que ça, c'est le premier aspect qu'il faut mettre en exergue. Le deuxième aspect que je voudrais mettre en exergue, c'est le fait que, vous savez, avec l'équipe du président sortant Biden, il y avait aussi un certain nombre d'engagements qui avaient été pris par les États-Unis, concernant la présence de l'Afrique au Conseil de sécurité, concernant les questions financières internationales et le rôle que les États-Unis peuvent jouer pour faciliter le changement des règles aux Africains. Ça, c'est des questions qui intéressent les Africains parce qu'ils ne savent pas si Trump va revenir sur la décision qui avait été de Trump quant à la réforme totale du système financier international que les États africains demandent toutes leurs vœux. Donc, ces questions sont tellement importantes pour le continent qu'ils attendent de voir, et c'est même une sorte de curiosité des États africains de savoir ce que pense Trump sur ça. Et jusqu'à les deux de ça.
Et comment les dirigeants du Sahel pourraient-ils faire valoir l'importance stratégique de la région aux yeux de Donald Trump, malgré le désintérêt perçu pour le continent?
Alors, pour le Sahel, vous savez, c'est la question des ressources au Sahel est une question importante, et surtout des ressources stratégiques, comme la question de l'uranium. Vous savez que le Niger a quand même essayé de signer des accords avec l'Iran pour de ce pays.
Il y a un problème de...
Je dis les États-Unis sont un ami important d'Israël et Israël verrait d'un très mauvais œil le fait qu'un pays sahélien puisse donner une ressource aussi importante que l'uranium à l'Iran. Ça, c'est vraiment un casus belli. Et peut-être que Trump va essayer de négocier avec le Niger pour voir dans quelle mesure le Niger ne pourrait pas mettre à exécution la décision qui a été prise par les militaires.
Quelles alternatives les pays du Sahel pourraient-ils envisager pour compenser un éventuel désintérêt américain? On a vu qu'il y a eu beaucoup de financements en matière humanitaire durant l'administration Biden.
Oui, dépenses en matière humanitaire, mais ce n'est pas aussi important que les dépenses que les États européens accordent à l'Afrique. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'intervention américaine, vraiment, en termes de financement, c'est surtout dans le domaine sanitaire. Et dans le domaine sanitaire, il y a des secteurs clés tels que la question des naissances et autres, qui sont des questions que les États-Unis aimeraient voir les pays africains vraiment changer leur politique en la matière. Mais en dehors de ça, il n'y a vraiment pas d'impact. Vous savez, l'AGOA, ce n'est pas un... Afrique, et donc... Allô?
Oui.
Vous m'entendez?
Oui, je vous entends maintenant, oui.
Je disais que l'AGOA n'est pas une politique assez bien développée en Afrique pour susciter des craintes en cas de retrait américain. Et donc, je ne vois pas comment l'Amérique pourrait vraiment, en termes de coopération économique avec l'Afrique, vraiment peser sur les relations que l'Afrique est en train de développer avec le monde extérieur. Et déjà, vous savez que avec les BRICS, avec d'autres partenaires tels que la Turquie, tels que la Chine, les États africains ont pris un peu plus de liberté au plan économique. Donc, je ne vois pas comment Trump pourrait vraiment changer la donne dans ce domaine-là. Là, je pense qu'il sera très limité. Et puis, la première expérience de collaboration avec Trump avait montré qu'il n'avait pas d'intérêt pour l'Afrique. Et donc, les Africains vont continuer à vivre sans Trump et sans les États-Unis. Ça ne leur posera pas de sérieux problèmes.
Ibrahima Khan, du bureau ouest-africain de l'ONG OSIWA à Dakar, merci beaucoup pour votre expertise.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Au Burkina Faso, il y a quelques jours, le capitaine Ibrahim Traoré a révélé à la télévision nationale un scandale impliquant le détournement de plus de 3 milliards de francs CFA, fonds initialement destinés aux personnes déplacées internes. L'affaire met en cause un agent du ministère en charge des affaires humanitaires et est désormais entre les mains de la justice. Vendredi dernier, le procureur chargé de l'affaire a apporté des précisions supplémentaires sur le principal suspect. Des détails avec Gilles Dasta.
Le 4 novembre dernier, le capitaine Traoré faisait une annonce choc. Il est question de détournement de fonds au ministère des Affaires humanitaires.
Suite donc à une dénonciation sur plainte, nous avons découvert un réseau de malfrats, malheureusement au sein du ministère même de l'action humanitaire. Ce ministère qui était censé donc agir au profit donc des plus démunis, c'est dans ce ministère que des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards en 2024.
Il faudra attendre quelques jours plus tard pour que Blaise Bazier, procureur du Faso, apporte plus de détails sur les personnes mises en cause. Il s'agit principalement d'un cadre du ministère en charge de l'action humanitaire.
Il procédait à la falsification donc des chèques qu'il faisait endosser par certains de ses complices. Soit il endossait par lui-même, soit il le faisait endosser par d'autres personnes. Il fabriqua après coup des états financiers fictifs pour dissimuler les écarts de compte. L'évaluation du préjudice qui est toujours en cours fait ressortir à ce jour un montant de près de 3 milliards de francs CFA.
De quoi irriter les habitants de Ouaga que nous avons rencontrés.
Cet acte-là, on peut aussi qualifier ça de terrorisme. Parce que nous sommes là, les gens meurent de faim, de soif, toi aussi tu voles l'argent qui les a été dédié. Donc c'est très grave.
Dans un pays comme le nôtre, qui est en pleine crise sécuritaire, une personne peut en tout cas détourner plus de 3 milliards destinés au PDI. C'est être inhumain.
Selon le procureur du Faso, le mis en cause et ses complices ont été placés sous mandat en attendant leur jugement. Et le procureur de préciser qu'une partie des fonds détournés a été saisie.
La valeur des numéraires saisis à ce stade est de 166 630 000 francs CFA. Pour les biens meubles saisis, constitué principalement de moyens roulants, des voitures, on estime donc à 471 250 000 francs CFA.
Quant à la valeur des immeubles, elle pourrait se situer à plus d'un milliard et demi de francs CFA, selon le procureur. Les accusés sont notamment poursuivis pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Gilles Dasta, Ouagadougou, VOA Afrique. Thank you.
Tchad menace de quitter la force multinationale mixte FMM, accusant un manque de soutien de ses partenaires dans la lutte contre les attaques djihadistes sur son territoire. Cette force est censée lutter contre les groupes armés dans la région. Il regroupe les troupes du Nigeria, du Niger, du Cameroun, du Bénin et du Tchad. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec Célestin Simon Delanga, chargé de recherche et bureau de l'ISS, Institut d'études de sécurité pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le bassin du lac Tchad. Célestin, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors, quelles seraient les conséquences concrètes pour la sécurité régionale si le Tchad retirait effectivement ses troupes de la FMM ?
Merci Eric. Je commencerai par deux observations. La première, le quartier général de la force multinationale mixte FMM se trouve en N'Djamena. La seconde, la FMM qui mobilise les forces armées du Tchad, du Niger, du Nigeria, du Cameroun et du Bénin est une organisation de la commission du bassin du lac Tchad. Et il se trouve que le président en exercice de la commission du bassin du lac Tchad soit Mahamat Idriss Déby Itno du Tchad. Par conséquent, le retrait effectif des troupes du Tchad de la FMM fragiliserait gravement la structure, le fonctionnement et même l'efficacité de la force. Au pire des cas, la FMM peut tout simplement disparaître. Or, le mandat de la FMM est d'éradiquer Boko Haram, on le sait tous. Si elle se vide de sa substance, rappelons déjà que le Niger a suspendu sa participation aux actions de la FMM suite au coup d'État de juillet 2023. Si donc la FMM se vide de sa substance, elle ne pourra plus efficacement faire face à Boko Haram et au grand désarroi des communautés. C'est une situation qui est profitable aux différentes factions de Boko Haram et aux groupes de bandits affiliés à Boko Haram ou pas.
Quelles alternatives le Tchad pourrait-il envisager pour renforcer la protection de son territoire en dehors de cette force?
Je pense que le Tchad veut faire cavalier seul. Connu pour sa bravoure, sa témérité et ses opérations de contre-offensive d'envergure, à l'instar de sa grande participation à la libération de la ville nigériane de Gambaru, des mains de Boko Haram en 2015, à l'instar de la colère de Boma et récemment de l'opération Askanit, le Tchad se sent capable de défendre son intégrité territoriale et de sécuriser ses populations. En écoutant le président tchadien, le Tchad aurait aimé être soutenu par ses voisins tels que le Nigeria, qu'il a soutenu lui en 2015 en déployant 2000 soldats à Gambaru. Il aurait apprécié une intervention des forces camerounaises à ses côtés quand on sait que le Tchad a aidé le Cameroun à repousser les attaques de Boudou en 2015. Seulement ces États sont eux aussi occupés à combattre Boko Haram et d'autres formes d'insécurité.
Oui. Alors, existe-t-il des stratégies pour mutualiser davantage les ressources et les renseignements au sein de cette force afin de renforcer son efficacité et assurer sa mission?
Dès lors que le problème qui fragilise le groupe est connu, le problème de cohérence en l'occurrence, je pense qu'il suffit juste d'en trouver les solutions. Il existe d'ailleurs des plateformes de discussion pouvant permettre de résoudre ce problème et d'accroître l'efficacité de la FMM. Je pense au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CBLT, au forum des gouverneurs. Et puis, les États engagés dans la lutte contre Boko Haram doivent être animés par un réel désir de construire une alliance régionale forte pour affronter Boko Haram. Eric, en outre, l'on peut déplorer le fait que les États du bassin du lac Tchad soient les seuls au plan militaire en guerre contre Boko Haram en dehors du Bénin. Boko Haram étant l'une des organisations terroristes les plus meurtrières au monde, il est urgent pour ma part que les États d'Afrique songent à prêter main forte aux États du bassin du lac Tchad en vue de renforcer la FMM et de mettre hors d'état de nuire Boko Haram.
Célestin Simon Delanga, chargé de recherche et bureau de l'ISS, l'Institut d'études de sécurité pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le bassin du lac Tchad. Merci beaucoup pour toutes vos explications, Célestin.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne soirée chez vous. Nous allons donc parler maintenant de ce forum de haut niveau sur le pastoralisme qui s'est tenu à Nouakchott du 6 au 8 novembre, qui a permis de faire le point sur les succès, les défis pour assurer un avenir durable au pastoralisme dans cette région d'Afrique. C'est un reportage de notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop.
Dix ans après la déclaration de Nouakchott, le CILS, Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, dresse le bilan du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, soutenu par la Banque mondiale et son directeur régional, Shakib Djenan.
Nous avons vu la création de plus de 568 et points d'eau, l'établissement de 360 marchés pour le bétail, le développement de 4200 km de corridors pour le déplacement des troupeaux, la vaccination de 600 millions d'animaux et la gestion durable de plus de 11 millions d'hectares en zone pastorale.
Ce bilan est appuyé par Abdoulaye Mohamedou, secrétaire exécutif du CILS.
En termes économiques également, plus de 300 marchés de bétail ont été construits grâce à l'intervention des projets. Cela est important parce que ça facilite les transactions commerciales. Ça facilite également la collecte de la fiscalité locale pour les collectivités territoriales parce que la dimension économique va au-delà seulement de l'amélioration des revenus des producteurs, mais c'est pour toute l'économie locale et régionale.
Cependant, les défis persistent, notamment en matière de mobilité pastorale. Les jeunes ambassadeurs du pastoralisme, représentés par Doudé Issa Démon du Bénin, alertent sur ce problème.
Certains pays aujourd'hui se referment et cela renforce encore une certaine division, alors que le pastoralisme a pour mode stratégique pour pouvoir utiliser les ressources, la mobilité. Et cette mobilité est aujourd'hui confrontée à un problème.
Les participants recommandent aussi d'améliorer la gouvernance foncière pour apaiser les tensions entre éleveurs et agriculteurs, comme le souligne Aliou Dembakebe, directeur du programme Afrique de l'Ouest de TIS Nexus.
L'agro-business est en train d'occuper les espaces où les éleveurs passaient traditionnellement. Et c'est ce qui amène les heurts. Et l'autre chose aussi, c'est les ressources, c'est l'eau, principalement aussi, qui constitue un problème. Donc de plus en plus, ce sont ces questions principalement qu'il faut attaquer avant d'attendre les conséquences qui sont justement les heurts, les conflits et de plus en plus qui sont en train de prendre de l'ampleur.
Enfin, le secrétaire exécutif du CILS appelle à investir massivement dans la production fourragère pour garantir une alimentation animale stable et réduire la dépendance à la pluviométrie. Mohamed Diop, VOA Afrique, Nouakchott.
C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manilakiza a été avec vous au micro. Lionel Manilagahima et Trésor Matondo ont assuré la production, la réalisation et la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.
Focus Sahel, merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.